Et midi, c'est l'Express du 21 mars. Colin, hein, le suspense est insoutenable! Est-ce que Donald Trump sera arrêté aujourd'hui? Je sais pas. Moi, je suis pas certain. On va en parler un petit peu, mais avant, je veux partager une nouvelle qui va confondre encore plus les choses concernant l'origine de la COVID-19. Est-ce que ça vient d'un laboratoire? Est-ce que ça vient d'une chauve-souris? Bon, ben là, on est rendu aux chiens. Il y a des données génétiques qui ont été publiées, qui ont dévoilé que la COVID-19, ça pourrait venir de ce qu'on appelle des chiens vivrains. Évidemment, encore dans le marché de Wuhan, est-ce que, ben, je sais pas si c'est des chiens qui se promènent là. Est-ce que c'est des chiens que les gens domestiquent? Est-ce que c'est des chiens que les gens mangent? L'article que j'ai sous les yeux ne le précise pas, mais il y aurait une possibilité que ce soit ces chiens-là qui auraient transmis la COVID-19 à l'humain. En fait, c'est qu'il y avait eu des prélèvements sur les étals du marché de fruits de mer de Wuhan. Je ne sais pas pourquoi on dit de fruits de mer, c'est ils vendent des chauves-souris, des pangolins. En tout cas, dans les deux mois qui ont suivi leur fermeture, qui est survenue le 1er mars 2020, on avait trouvé à l'époque de l'ADN humain, des particules de COVID-19, mais pas d'ADN animal. Ben là, c'est changé parce qu'il y a une équipe internationale de scientifiques dont l'analyse des séquences génétiques a été refaite finalement. Ils ont fait l'analyse des mêmes échantillons. Et puis, il y en a qui étaient riches en ADN de chiens viverains. C'est une espèce de petit chien. Ça ressemble à un chien de sacoche un peu mélangé avec un raton laveur. Tu sais, admettons qu'un raton laveur s'accouplait avec le chien de votre voisine qu'elle tient toujours dans ses bras. Ça donnerait à peu près cette affaire-là, ce petit chien viverain. Et puis, ben, il y avait des traces de ce chien-là, mais aussi d'autres mammifères, dont des civettes. Civettes, une espèce de petite... ça ressemble à une espèce de petite belette aussi. Là. C'est une espèce de petit... pas vraiment un rongeur, mais dans ce style-là un peu. Dans le style de taille, là, mais je pense pas que ce soit un rongeur. Là, ça n'a pas la dentition de ça. Mais finalement, force est de constater qu'on ne le sait pas. Puis, il y a une possibilité qu'on ne le sache jamais aussi. Il faudrait peut-être en revenir à un moment donné. on va pas leur dire, arrêtez les tests, là, on s'en sac. On s'en sac pas, puis tu sais, mais plus ça va, moins on le sait, on dirait. Tu sais, avant, il y avait deux théories. Maintenant, il y en a trois. Évidemment, la théorie, c'est des animaux sauvages. Que ce soit un pangolin, une chauve-souris ou un chien vivrain, ça reste quand même un peu les deux mêmes théories. Soit des animaux sauvages et ça serait... ils auraient contaminé le marché de Wuhan et des humains auraient été infectés par la COVID-19. Et encore la théorie du laboratoire que les conspis aiment donc, ils aimeraient donc qu'on se rende compte que c'est vrai. L'affaire, c'est que c'est pas un choix, les amis. Moi, je veux que ce soit ça, la réalité. J'imagine que, tu sais, à force de faire des tests, ils vont peut-être en arriver à quelque chose. Mais bon, l'autre théorie, évidemment, c'est que que ça viendrait de l'Institut de virologie de Wuhan, qui est pas loin, tu sais. Fait que c'est sûr que, tu sais, le laboratoire étant situé dans la même région où il y a eu les premiers cas, ça reste une théorie qui se tient toujours. Donc, on le sait toujours pas. Puis, est-ce que c'est un animal? On vient de rajouter un autre animal à la liste des suspects qui auraient transmis la COVID-19 à l'humain. Mais le gros dossier du jour, puis on va en parler un petit peu, là. Est-ce que Donald Trump sera arrêté aujourd'hui? c'est la journée qu'il avait prédit lui-même. Mais faut tout de suite relativiser ça un petit peu. Là. La source selon laquelle Donald Trump serait arrêté aujourd'hui n'est pas fiable. Pourquoi? Parce que c'est Donald la source. Il y a juste lui qui l'a affirmé, en fait. C'est des rumeurs, puis lui, il parle de coulage qui lui aurait permis d'apprendre ça. Mais ça reste que c'est juste une rumeur. Est-ce que ça va arriver? T'sais, oui, la cause, elle est bel et bien réelle, là. Stormy Daniels, puis... D'ailleurs, pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce qu'on le poursuit pour avoir donné de l'argent à une pornstar pour qu'elle se ferme la trappe, Ben c'est parce que ça lui donnait un avantage électoral à ce moment-là, parce que elle aurait pu sortir cette histoire-là juste avant l'élection présidentielle à l'époque, et puis ça lui aurait nui et peut-être même coûté cette élection-là, et il a payé cette personne-là pour qu'elle ne parle pas. Par le biais de son avocat de l'époque, en fait, c'est lui qui a déboursé le cash, c'est lui qui a payé au nom de Donald Trump des 130 000 $ pour fermer sa trappe. Moi, je peux me la fermer pour bien moins que ça, mais ben, j'ai pas couché avec Donald Trump. Mais c'est parce que c'est un genre de parjure, fausse déclaration, premièrement pour le mensonge qui est impliqué là-dedans, mais aussi c'est que ça pourrait être une infraction au financement électoral, c'est-à-dire que tu peux pas utiliser de l'argent comme tu veux quand t'es en campagne électorale. Puis ça a l'air que soudoyer quelqu'un pour qu'elle ne révèle pas des choses que tu as faites, ça rentre là-dedans. Donc, on essaie de poursuivre Donald Trump. Ça sera pas si facile que ça parce que premièrement, la source, le témoin, celui qui affirme avoir payé Stormy Daniels, a déjà été reconnu coupable de parjure dans le passé. Ce qui fait pas de lui quelqu'un de très crédible non plus. Il travaillait à l'époque pour Donald Trump. Là, évidemment, il s'est retourné contre lui. Mais il a pas un dossier très, très reluisant. Puis, il a pas une crédibilité très, très établie. Là. On n'a pas l'impression que... Il faudrait pas que ce soit... la seule arme ou le seul témoin à pouvoir corroborer cette accusation-là, parce que le procureur pourrait en arracher un petit peu avec la crédibilité de son témoin. Mais quand même, il y a des gens qui se sont rassemblés hier soir devant le palais de justice de Manhattan. Apparemment, il y avait plus de police et de journalistes que de manifestants. On parle d'une trentaine là, de jeunes trumpistes. Qui sont là pour soutenir leur héros. Ils font partie d'un groupe qui s'appelle The Donald. C'est complètement ridicule. Ils veulent déclencher une grève nationale, voire une guerre civile 2.0 si jamais leur idole est arrêtée. Mais bon, on essaie de savoir quand même. On essaie de faire des refreshs le plus souvent possible pour savoir si on va voir Donald Trump menotté. Puis ça serait spécial en maudit. Premièrement, ça serait c'est sans précédent. Là, ça serait. Ça serait quelque chose qui arriverait pour la première fois de voir un président en fonction ou un ex-président se faire passer les menottes. J'imagine que si ça se fait, s'il se rend lui-même comme il l'a promis, là, si jamais il y a un mandat d'arrêt contre lui. J'ai lu une prédiction d'un analyste qui disait qu'elle allait passer par la porte de derrière, essayer de faire ça discrètement, puis... Moi, j'ai l'impression que c'est le contraire. Moi, j'ai l'impression qu'il va arriver par la porte d'en avant, puis avec quasiment une équipe de tournage, puis il va vouloir se faire filmer en victime avec les menottes au poignet, puis si ça arrive, en fait, ça pourrait arriver, mais tu sais, pas nécessairement aujourd'hui. Il y a des bonnes chances que ça arrive, en fait, là, parce qu'il y a vraiment matière, puis... Mais ça veut pas dire que ça va se passer aujourd'hui, ça veut pas dire que ça va se passer en public, puis tu sais, on le sait pas, tu sais, il reste les détails, mais n'empêche que la cause, elle est valable, le témoin est plus ou moins crédible. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que cette cause-là de Stormy Daniels qui nous intéresse aujourd'hui, elle fait l'actualité, tu sais, puis on parle juste de ça à cause des affirmations de Donald Trump, qui d'ailleurs prépare déjà une espèce d'autre insurrection à la 6 janvier. En tout cas, ça nous le rappelle, parce qu'il demande aux gens de manifester, puis de prendre le contrôle du pays, puis tu sais, tu vois qu'il essaie déjà de craquer ses troupes, ses fans, les membres de sa secte, pour qu'il fasse un autre coup d'éclat. Mais apparemment, là, l'engouement est pas aussi fort que le 6 janvier. Hein? C'est un petit peu moins hot. Mais cette cause-là de Stormy Daniels n'est pas la plus importante, n'est pas la plus grave, c'est pas la pire infraction de Donald Trump, en tout cas pour laquelle il sera vraisemblablement accusé. Une des pires, c'est évidemment ce qui s'est passé en Géorgie où il a carrément appelé des responsables de l'élection de 2020 en leur demandant de rajouter des vagues, là, ça me prend 11 000 votes, ça me prend ci, ça me prend ça, en demandant carrément de tricher pour lui. c'est tellement contradictoire. Donald Trump qui arrête pas d'accuser Biden d'avoir triché, les démocrates d'avoir triché, il a perdu parce qu'il a triché, t'as triché, ils ont volé l'élection. Mais on l'entend dans des appels téléphoniques réclamer des votes à un responsable. Puis ça, Colin, c'est sa propre voix, là. Tu sais, ça va être difficile à démentir. C'est probablement le crime le plus grave pour lequel il est accusé, en tout cas politiquement, là, parce que il y a aussi des allégations d'agression sexuelle, mais ça, on n'a pas trop de détails là-dessus, évidemment, c'est du criminel, ça serait évidemment très, très grave. Mais quand même, si il devait être poursuivi, puis apparemment, ben l'enquête avance, là, on se dirige vraisemblablement vers des poursuites. Ben la peine pour avoir fait des pressions sur des responsables de l'État de la Géorgie pour tricher sur les élections. C'est pas mal plus grave qu'avoir donné 130 000 piastres à une porn star pour qu'elle ne parle pas de son petit champignon. de ce qu'elle a fait avec son petit champignon, moyennant sûrement de l'argent. Hein? J'ai pas l'impression qu'elle a été séduite par Donald Trump. Quoi qu'on sait jamais, hein, tous les goûts sont dans la nature. Il y en a qui aiment des affaires pas mal bizarres. Peut-être que les petits champignons jaune-orange en font partie. Mais c'est pas mal plus grave d'essayer de tricher pour des élections présidentielles. Et surtout que j'ai l'impression que les preuves vont être accablantes. Notamment parce qu'on l'entend au téléphone. fait que ces causes-là risquent d'être plus importantes. Je dis ces causes-là parce qu'il y en a une autre, évidemment. Vous savez sûrement où je m'en vais. L'insurrection du 6 janvier au Capitole, ben là, ça aussi, c'est quand même assez... c'est une grosse offense. C'est le genre de... Je pense qu'on peut appeler ça un complot séditieux, mais je suis pas un juriste, là. Mais il va vraisemblablement avoir une suite à ça. C'était assez clair, l'appel qu'il avait fait, là. Il avait carrément appelé les gens à prendre le Capitole. En tout cas, à manifester fortement au Capitole, d'aller là, puis de... Tu sais, il a vraiment craqué le monde, puis aussi, ce qui va jouer contre lui, c'est que pendant que l'insurrection était perpétrée, alors qu'il est pas capable de fermer sa gueule, là, c'est ce moment-là qu'il a décidé de rester muet, plutôt que d'appeler ses partisans au calme, plutôt que de faire des appels au calme, il disait rien, puis il regardait ça se passer sur une TV en mangeant du Burger King, puis tu sais, c'est pas mal plus grave ça aussi, tu sais, fait que ça aussi, ça va, je pense que ça va être intéressant de suivre ça. Mais aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est le dénouement la suite de l'affaire Stormy Daniels. Est-ce que ça va arriver? Est-ce qu'il va se faire arrêter? Est-ce que le procureur va procéder à des poursuites? Est-ce qu'il est mieux préparé que ce que l'on pense? Est-ce qu'il a d'autres témoins ou d'autres preuves que l'ancien avocat de Donald Trump dont la crédibilité a été compromise, là, parce que comme je disais, il a déjà été accusé reconnu coupable, si je me rappelle bien, de parjure, tu sais, fait que c'est pas quelqu'un qui a une grosse crédibilité. C'est pour accuser monsieur tout le monde, peut-être que ça suffirait, mais accuser un président, tu sais, c'est un terrain glissant. Premièrement, quand t'es le premier à faire quelque chose, tu veux pas manquer ton coup. Puis être le premier à accuser un président, un ancien président, en fait. Les présidents américains, si je me trompe pas, conservent le titre de président toute leur vie, même s'ils n'occupent plus les fonctions. Donc, accuser un président, t'es mieux de pas manquer ton coup. T'es mieux d'être coupable, t'es mieux d'être capable de le démontrer et d'avoir des meilleurs témoins que quelqu'un dont la crédibilité est loin d'être établie. En fait, dont la crédibilité a été entachée par des événements passé. Un autre dossier international aujourd'hui, je suis pas mal dans l'international, ça en passe pas mal des affaires troublantes, amusantes dans le cas de Donald Trump. Là, en fait, c'est un peu comme un soap opéra, là, ce qui sera arrêté ou non. À date, à 12h14, j'ai toujours rien. Là. mais en Asie, il se passe des choses, je trouve, pas mal plus inquiétantes. La Chine et la Russie, qui sont des sortes d'alliés, je pense qu'ils sont des alliés. Je sais pas s'ils sont des alliés, tu sais, sur le point de vue militaire. La Chine qui n'a pas condamné clairement l'action de la Russie en Ukraine. Mais ils ne l'ont pas non plus encouragé plus qu'il faut. On dirait qu'ils essaient de se garder dans une zone grise depuis longtemps, mais là, ils ont réaffirmé leur amitié sans limite qu'ils avaient déclarée avant même la pandémie. Je me rappelle plus exactement quelle année, je sais quelque part. Mais cette amitié-là, elle est un peu inquiétante. Puis on sait que les deux pays sont intéressés à bouleverser l'ordre mondial. La Chine est une puissance économique, aimerait devenir une superpuissance. Et aujourd'hui, là, de nos jours, il existe une superpuissance dans le monde et ce sont les États-Unis d'Amérique. Et ça fait pas l'affaire de ces gens-là, évidemment. Je pense que la Chine essaie de tirer un certain profit politique, là, pas monétaire, mais essaie de tirer profit de cette crise-là. Donc, le président chinois Xi Jinping est allé jaser avec son homologue russe Vladimir Poutine. Ça a duré plusieurs heures. Ça a duré 4 heures, en fait. Tête-à-tête informel qui, aujourd'hui, sont encore ensemble. Ils sont supposés avoir des discussions officielles visant à approfondir la coopération entre les deux pays. Puis, je pense que... Je sais pas si c'était prévu depuis longtemps, mais c'est un moment qui est très, très opportun pour Vladimir Poutine, qui, on en a parlé la semaine passée, qui maintenant est visé par un mandat d'arrêt international. Le problème, c'est que c'est la cour qui a lancé ce mandat d'arrêt-là, c'est la Cour pénale internationale, n'est pas reconnue dans tous les pays du monde. Je pense que c'est autour d'une centaine, 100, 120 pays qui sont... qui sont membres d'une espèce d'association qui reconnaissent l'autorité de cette cour-là. D'ailleurs, fait surprenant, les États-Unis ne font pas partie des pays qui reconnaissent la Cour pénale internationale. Encore moins, évidemment, la Russie. Fait que, tu sais, c'est une bonne affaire pour Vladimir Poutine de montrer qu'il y a encore des amis qui peut être encore le bienvenu dans certains pays. D'ailleurs, il est prévu qu'il se pointe en Afrique du Sud, mais l'Afrique du Sud reconnaît cette autorité-là. Fait, est-ce qu'il va prendre le risque d'aller là? En tout cas, ça serait une méchante démonstration de force ou de confiance d'y aller. Mais ce qui est pas impossible, parce que l'Afrique du Sud a déjà reçu quelqu'un qui était visé par un mandat de la Cour pénale internationale et ne l'a pas arrêté. Donc, je suis pas sûr que s'ils se sont pas mouillés pour cette personne-là, dont le nom m'échappe et même la fonction, t'sais, pour vous dire à quel point c'est pas quelqu'un d'aussi... c'est pas un personnage aussi majeur que Vladimir Poutine. Donc, s'ils n'ont pas sévi avec cette personne-là, je pense pas que c'est avec Poutine que ça arriverait, mais moi, j'ai plus l'impression qu'il n'ira pas. Mais quand même, c'est opportun pour lui de montrer qu'il n'est pas totalement isolé du reste de la planète, qu'il a encore des amis, notamment la Chine. Puis la Chine, ben eux autres, c'est ça, ils veulent tirer avantage, un avantage théorique, je pense, du conflit en Russie, qui, comme j'ai dit, qu'ils n'ont jamais vraiment condamné, ni tellement encouragé, mais on comprend, les analystes comprennent qu'ils ne veulent surtout pas que l'armée russe soit défaite en Ukraine. Ce serait une question d'équilibre pour d'équilibre de l'ordre mondial, en tout cas au moins dans cette région-là. Fait que on suit ça, on essaie de comprendre. Je vais peut-être inviter quelqu'un pour essayer de démystifier ça, cette espèce d'alliance-là, pas tellement claire entre Pékin et Moscou. Mais je pense que Pékin joue un petit peu là, les opportunistes là-dedans en ne condamnant ni n'encourageant clairement, en tout cas, cette action-là, mais en allant affirmer une amitié illimitée avec la Russie. Ben, je pense qu'ils font leur lit, puis ils disent au monde un peu à quelle enseigne ils logent. Et parlant de la Chine, tiens, avec tout dans la foulée de toutes ces ces révélations qui ont été faites au sujet de postes de police chinois clandestins qui opèrent au Canada et dans plusieurs pays. D'ailleurs, ça a été mis au jour par un organisme espagnol qui s'appelle Safeguard Defenders. Moi, je vois des héros de Marvel avec des costumes. Mais non, non, c'est tout à fait sérieux. Les Safeguard Defenders ne sont pas la réponse de DC aux Avengers. C'est un organisme espagnol qui a révélé à l'ensemble de la planète l'existence de ces postes de police chinois-là. Puis il serait présent dans une cinquantaine de pays. On a appris ça l'automne dernier, en octobre, si je me rappelle bien. Donc, il témoignait hier soir à Ottawa. Je parle de l'organisme Safeguard Defenders. Ça prendrait quasiment un thème. Il témoignait justement hier soir à Ottawa au comité parlementaire chargé d'étudier les relations entre le Canada et la Chine. Et la porte-parole de cet organisme-là a prévenu le Canada qu'on devait s'attendre à des temps difficiles dans la lutte contre... En fait, ces mots, c'est douloureux. Mais j'ai le goût de dire difficile. Je sais pas si elle était bien traduite. Mais en tout cas, dans la lutte contre l'ingérence chinoise, les postes de police qui sont un peu partout et qui interfèrent vraisemblablement avec les élections, ben ça serait la pointe de l'iceberg. Et on estime que le Canada a fermé les yeux trop longtemps là-dessus en espérant que le problème disparaîtrait de lui-même. Mais évidemment, ça c'est pas de même que ça marche, la vie. Ils se sont plutôt renforcés, ils sont devenus un peu plus tentaculaires. C'est pas elle qui le dit, c'est moi. Leur influence se serait juste renforcée pendant ces années-là où on faisait rien, où on regardait ailleurs, si bien qu'ils ont réussi à influencer des élections, ce qui est pas très bon pour nous autres, là, quand un pays étranger est capable de s'immiscer dans nos élections. Puis on en a parlé la semaine passée, sur les centres d'aide à la famille, il y avait carrément des indications de comment voter, pour qui voter et pourquoi. Là. Et on disait même clairement pour quel candidat on devait voter si on faisait partie de la communauté chinoise. Et puis, on disait aussi qu'ils faisaient des pressions sur des citoyens maintenant canadiens, mais originaires de Chine, pour qu'ils aillent se faire traduire devant la justice du Parti communiste chinois. Puis Colin, c'est pas quelque chose que tu fais de bon cœur. Hein? La justice là-bas, c'est ordinaire. Tu sais, c'est pas nécessairement très, très juste. Puis ils auraient réussi avec au moins 3 personnes, au moins 3 Canadiens qui auraient été renvoyés en Chine, ou en tout cas qui auraient été convaincus. Puis c'est pas « Ah oui, donc, vas-y, donc. » Non, non, ça sert d'intimidation, on utilise la menace. J'imagine que ces gens-là ont des proches encore en Chine. On doit faire du chantage peut-être à propos de ces gens-là. Mais d'une façon ou d'une autre, on se sert d'intimidation et de menace et de façon de méthode déloyale, je pense, pour les convaincre de retourner à la mère patrie, se faire juger sommairement, je vais le dire comme ça, là, parce que c'est vraiment l'impression que le système judiciaire du Parti communiste me donne. Là, ça doit pas être des tu dois être coupable en arrivant, là, puis après ça, ben tu dois être juste comme... Ils doivent t'expliquer pourquoi t'es coupable. C'est pas mal ça, d'après moi, la justice en Chine, mais bon, je suis pas un expert là-dedans, mais on en sait assez, je pense, pour être capable de déduire ça. Donc, on force des gens comme ça à retourner au pays. Puis là, Mme Hart, qui est la représentante de Safeguard Defenders, je suis pas capable de le dire sans niaiser, là. Safeguard Defenders. Non, Defenders! Ça sort de même, excusez. J'aurais dû choisir un autre nom. Mais bon, elle a appelé le Canada à ne pas se limiter aux présumés postes de police, mais c'est parce qu'il c'est ça, c'est parce que c'est. Comme elle dit, c'est la pointe de l'iceberg, fait qu'il peut avoir bien d'autres choses. Notamment, il y a des publications. Moi, à Rouyn-Noranda, dans la boîte à lettres, là, j'ai reçu une publication qui était. Qui visait la communauté chinoise, qui est à peu près inexistante en Abitibi-Témiscamingue, mais. On le recevait quand même. Mais ce journal-là, par exemple, allait à l'inverse. C'était à contre-courant et était contre le Parti communiste chinois. Donc, on répond à la propagande par la propagande. Puis, Colin, ça a l'air planétaire. On fait pas ça là-bas. Ben, c'est sûr que quand t'es dans un parti qui est. qui est sous la botte d'un régime répressif comme celui du Parti communiste chinois, ben, t'es peut-être mieux de te pousser à l'autre bout du monde avant de critiquer. Parce que, c'est, d'après moi, on doit faire taire les critiques un peu comme Vladimir Poutine fait avec, avec les siennes en Russie. D'ailleurs, c'est une valeur que partagent les deux nations qui sont maintenant... qui sont dans une relation d'amitié illimitée. Les deux pays... foule au pied le droit à la libre expression. Ça n'existe pas, la libre expression. La liberté de presse n'existe pas dans ces pays-là. Les médias sont des médias qui sont contrôlés par l'État, où on n'y fait pas des nouvelles, mais bien de la propagande. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Russes qui ne sont même pas au courant des tenants et aboutissants de la guerre en Ukraine, qui ont l'impression que la Russie ne fait que se défendre ou endiguer, ou plutôt couper le mal à sa racine. On parle de nazis, tout ça. Ben, en Chine, tu sais, on contrôle beaucoup l'information aussi. Donc, tu sais, c'est deux pays qui ont des valeurs semblables, hein. Elle a quand même, Madame Hart a quand même félicité la gendarmerie royale du Canada. Pourquoi? Ben parce qu'ils ont ouvert des enquêtes, au moins, à propos des postes de police chinois et de l'ingérence du Parti communiste chinois dans la politique canadienne. Et puis, selon elle, c'est la meilleure réponse au phénomène qu'elle a vu dans le monde. Autrement dit, dans les autres pays, on n'a même pas ouvert d'enquête. Une cinquantaine de pays là qui auraient... qui hébergerait, sans le vouloir ou peut-être même sans le savoir, des faux postes, des postes de police plutôt clandestins et des organismes qui font de l'ingérence. Mais évidemment, ça met une espèce de climat qui inquiète certains chercheurs, notamment des universitaires canadiens, qui craignent que ça se traduise en gestes de racisme, en discrimination pour les Chinois qui vivent ici au Canada. Puis je comprends leur inquiétude. Je pense qu'il faut pas non plus s'alarmer. Là, je dis ça, je suis souvent déçu. Mais j'ai l'impression qu'on est assez évolué dans notre société pour ne pas commencer à pointer tous les Chinois du doigt ou tous les Asiatiques du doigt en les traitant d'espions. Oui, PPM 83, tous les pays majeurs font de l'interférence dans les pays étrangers. C'est seulement les méthodes qui changent. Oui, je pense que tu dis vrai. Mais quand on s'en rend compte, ça c'est une bonne idée de réagir, d'après moi. Mais bon, c'est ça, on craint que ça toutes ces nouvelles-là à propos de l'ingérence de la Chine au Canada se traduisent en racisme. En fait, tu sais, on l'a vu, là, tu sais... Dans le temps des attentats du World Trade Center, il y a beaucoup beaucoup d'islamophobie qui est apparue après ça ou qui s'est décomplexée après ça. On traitait tout le monde qui avait la peau brune ou basanée, fut-il indien, tu sais, même pas, tu sais, tous ceux qu'on qualifiait d'arabes souvent de façon très ignorante. Il y a des gens qui les traitaient de terroristes. On se rappelle d'un certain Pierre Dion ou d'un certain... c'est quoi son nom? C'est Alexandre Bissonnette? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est lui qui a perpétré la tuerie à la mosquée? C'est sûr que ça fait paranoïer davantage ceux qui sont déjà paranoïaques. Même à la Deuxième Guerre mondiale, il y avait eu des... une espèce de paranoïa envers tous les citoyens japonais. Notamment au Canada, il y en a 23 000 citoyens japonais qui avaient été déracinés et dépossédés. Et aux États-Unis, c'était encore pire. On n'en parle pas dans l'article, mais je suis au courant de ça. J'avais vu une entrevue. Je pense que son nom, c'est... George Takei. En tout cas, celui qui faisait Monsieur Sulu dans les vieux Star Trek, lui, il l'a vécu. Sa famille a été déportée dans un camp. Aux États-Unis, il y avait carrément des camps de concentration où on garrochait tous les Japonais parce qu'on les soupçonnait vraisemblablement. Oui, c'est ça. Merci, George Takei. On confirme le nom. Ils les ont mis dans des camps de concentration. OK, ils nourrissaient. Puis c'était pas les mêmes conditions que ce que les Juifs ont vécu, évidemment. Mais quand même, on les a dépossédés, on les a mis dehors de chez eux, on les a emprisonnés, tu sais, de façon préventive. Là, je pense pas que ça va arriver ici. Là. On est loin, très, très, très loin de ça. Mais le processus psychologique, je pense, est comparable. Puis on fait bien de craindre, mais en même temps, faut pas virer fou. On peut peut-être attendre et voir. Ça aussi, ça se fait. Je garde espoir que en tout cas au Québec et même dans le reste du Canada, on va être capable de faire la différence entre le régime communiste chinois et les citoyens ici qui sont d'origine chinoise mais qui sont canadiens, qui sont implantés depuis longtemps, puis ils font pas tous partie de en tout cas. Je dis ça puis je suis souvent déçu, mais je vais essayer de rester optimiste là-dessus et espérer qu'on tombe pas dans la discrimination envers les Chinois à cause de ça. Ceci dit, ça veut pas dire qu'il faut fermer les yeux sur le problème, comme semble le faire Justin Trudeau et le Parti libéral, en ignorant ou en décidant de faire semblant d'ignorer ce phénomène-là, parce que Justin Trudeau carrément dit « Ah, t'es pas au courant de ça, mais c'est drôle, hein, tout le monde le savait, sauf toi, puis t'es premier ministre. » Je le crois pas du tout, je pense que Justin Trudeau ment quand il affirme qu'il n'était pas au courant de cette réalité-là, comme quoi la Chine fait de l'ingérence ici. D'ailleurs, tantôt dans les commentaires, on soulignait que la plupart des pays le font partout. Je vais relire le commentaire de PPM 83 parce que je pense qu'il est pertinent. Tous les pays majeurs font de l'interférence dans les pays étrangers. Et si PPM 83 le sait, si moi je le sais, si vous le savez, le premier ministre du Canada devrait être au courant de ça. S'il ne l'est pas, ben, Colin, on a un problème. On fait une petite pause dans l'Express et on parle de dépassement de coûts et peut-être un peu de Corée du Nord au retour.
Abonne-toi à notre Patreon et découvre des centaines d'heures de contenu. Tu auras aussi accès à la légendaire Chambre froide.
Rire et facepalm garantis.
Kate, tu as raison, les racistes ont pas besoin de raison pour être racistes. D'ailleurs, il n'y a pas de raison valable d'être raciste. Donc, je suis d'accord avec ce que tu dis. Et les gens inclusifs sont capables de comprendre la différence. C'est tout à fait pertinent. Sauf que même si les gens, les racistes, ont pas besoin d'être racistes, quand ils tombent sur des raisons, ben des fois, ça les motive à aller plus loin. Ça valide leur sentiment raciste, mais aussi, ça peut les radicaliser et les pousser à poser des actions qu'ils n'auraient peut-être pas posées. Je veux juste rester dans l'international, juste le temps de vous tenir au courant de ce qui se passe un peu avec la Corée du Nord. La Corée du Nord a dirigé pendant 2 jours des exercices militaires qui avaient pour but de simuler une contre-attaque nucléaire. Ils ont pris un missile, ils ont mis une fausse tête nucléaire, un missile balistique, puis ils ont mis une fausse tête nucléaire dessus pour montrer que s'ils voulaient mettre une tête nucléaire sur un missile, ben ils seraient capables. Puis le missile, c'est un missile balistique de courte portée. Ça veut dire qu'il peut pas nécessairement atteindre l'Amérique, mais il pourrait atteindre la Corée du Sud, qui est évidemment un allié. Le missile a volé sur une distance d'à peu près 800 mètres. Pas 800 mètres, c'est pas bien loin. 800 kilomètres avant de retomber dans la mer de l'Est, la mer du Japon. Bon, encore là, l'armée sud-coréenne parle encore d'une grave provocation, puis qu'il va y avoir des... Puis ça contrevient aux sanctions des Nations Unies, mais tu sais, à toutes les fois, c'est une grave provocation. À toutes les fois, ça contrevient aux sanctions des Nations Unies. Puis à toutes les fois, Kim Jong-un s'en fout. Fait qu'on a beau le dénoncer, il arrêtera pas. Puis la raison pourquoi il fait ça, ben c'est parce qu'il y a des exercices qui sont en cours depuis quelques jours. C'est conjointement l'armée de la Corée du Sud et l'armée américaine qui font des exercices de prévention, tu sais, ils appellent ça le Freedom Shield. C'est 11 jours, ces exercices militaires-là, à proximité du territoire nord-coréen. Donc, ça le rend nerveux, même que pour lui, est-ce qu'il le croit vraiment ou est-ce que c'est un prétexte? Mais selon lui, en tout cas, quand Kim Jong-un en parle, c'est pas un exercice, c'est en fait une répétition à une invasion. Donc, on se prépare pour la guerre, on se prépare pour ça, puis on montre nos gros pénis avec des têtes nucléaires dessus, on pète ça dans les airs, on montre qu'on est capable de lancer des missiles puis de faire beaucoup de mal, et on réaffirme le caractère nucléaire de la puissance de son armée qui est irréversible. Puis grosse guerre de mots, mais en même temps, concrètement, s'il y a des choses qui arrivent pour vrai, les États-Unis font ces tests-là, ces exercices-là avec la Corée du Sud, puis on peut les comprendre, là, quand t'as un crackpot comme ça de l'autre bord de la clôture, t'es mieux d'être prêt. Fait qu'ils n'ont comme pas le choix, selon moi, de faire ces exercices-là. Et lui, évidemment, ben les interprète comme il veut. Puis en même temps, pour sauver la face et pour se montrer fort, on pourrait presque dire qu'il n'a pas le choix d'agir comme il agit là. Il a pas le choix dans la dynamique qu'il a choisi d'instaurer. Fait que on est dans l'affrontement, on est dans l'intimidation. Et j'ai l'impression qu'on va y rester un certain moment. Est-ce qu'un jour ça pourrait péter? C'est pas moi qui peux vous le dire, mais c'est certain qu'il faut surveiller ça, puis on peut pas juste prendre ça à la légère. Il développe ses armes, il développe ses missiles pour qu'ils aillent de plus en plus loin, qu'ils soient de plus en plus précis, et il développe les armes nucléaires pour être capable de soit passer à l'attaque ou se défendre. Moi, j'ai pas l'impression qu'on... J'ai pas l'impression qu'aucun pays du monde va aller donner un coup de pied sur ce nid de guêpes-là, mais des fois, il y a des essaims qui se forment sans qu'on comprenne nécessairement pourquoi. On va revenir un peu chez nous. Je ris, puis c'est pas drôle. Le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, dont on avait estimé le coût de la réfection à 1,4 milliard de dollars. Évidemment, on s'attendait à des dépassements de coûts parce qu'il y en a toujours. Moi, j'ai l'impression que les compagnies qui soumissionnent pour ces affaires-là soumissionnent à la baisse, tu sais, pour être certain d'avoir le contrat. Puis on se dit, ben, après ça, on fera des dépassements de coûts. Hein? C'est pas mal comme ça que ça marche. Ben là, les dépassements de coûts dépasse l'estimation initiale. Là. C'est 1 milliard de plus. Là. On est passé de 1,4, mais c'est presque 1 milliard de plus. Alors, je vous dis, c'est 1 milliard de plus, mais ça a presque doublé. On est passé de 1,4 milliard à 2,5 milliards. Puis on avait déjà anticipé une hausse de 970 millions. Pourquoi c'est normal, ça? On s'attend à ce que ça coûte 970 millions de plus. Ah ouais? Ah ouais? Puis c'est normal? Ah ouais. c'est comme ça que ça marche. Mais bon, on dit que le nouveau montant qui s'ajoute à l'estimation de dépassement de coûts serait lié... ben en fait, c'est évidemment l'entrepreneur qui est responsable des travaux qui détermine cette hausse-là et qui dit que finalement, c'est plus brisé qu'on pensait. Là, c'est... La voûte aurait 60% de plus de dommages que ce qu'on pensait, que ce qui a été anticipé. Ben oui, mais je... Faites pas une estimation avant. Vous allez pas voir avant. Tu sais, moi, quand je vais au garage, je vais porter mon char, là, tu sais, puis mettons un vieux bazou, là. Fais-moi donc une estimation. Dis-moi donc combien ça coûterait pour réparer mon char que j'ai payé 900$, là. Ah, oh, c'est ta transmission, elle coûterait 2000$. Je pense qu'on va laisser faire. Tu sais, mais au pire, si je dis, OK, répare-les, je l'aime, je suis attaché émotivement à mon bazou de 900$. Répare-la la transmission de 2000. S'il m'arrive et dit, hey, finalement, ça a coûté 4500, ben là, je paye pas. On peut-tu faire ça? On peut pas faire ça, évidemment. Mais Colin, c'est parce que c'est... Je peux pas comprendre que ce soit normalisé à ce point-là. Je peux comprendre qu'on puisse s'attendre à des dépassements de coûts parce qu'il y a toujours des surprises sur un chantier, puis dans la construction en plus, il y a toutes sortes de de facteurs qui peuvent venir intervenir pour changer le coût d'un chantier. Par exemple, je sais pas moi, la main-d'œuvre qui est plus rare, qui coûte plus cher, les matériaux qui sont plus difficiles à acquérir ou qui coûtent plus cher aussi. Puis d'ailleurs, c'est le cas, hein, ces temps-ci. Les matériaux sont de plus en plus chers. Mais en tout cas, c'est pas ça qu'on prétexte, là. C'est 60% plus scrap qu'on pensait. Ça sert à quoi l'évaluation? Est-ce que c'est moi, c'est parce que je connais rien là-dedans, puis il y a une limite à ce qu'on peut découvrir en évaluant avant de d'établir un prix, puis de faire une soumission? En tout cas, au cabinet de la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, en tout cas, c'est pas elle qui s'est exprimée, mais plutôt son attaché de presse, Louis-Julien Dufresne, il dit, les hausses de coûts, la plupart, on les savait déjà, puis ça va être nécessaire. Bon, mais si on les savait déjà, pourquoi on n'appelle pas ça des coûts? Pourquoi on les inclut pas, tu sais? Moi, j'ai l'impression qu'on soumissionne au plus bas pour être sûr d'avoir le contrat, puis après ça, on se garde dans les dépassements de coûts. Moi, c'est ce que je pense. Mais évidemment, je suis pas un expert là-dedans, mais il me semble que ça fait du sens comme raisonnement. Mais bon, c'est partout à travers le monde, dit-on, dit plutôt le Louis-Julien Dufresne, l'attaché de presse de la ministre. Partout à travers le monde, il y a une surchauffe dans le milieu de la construction et des matériaux. Donc ça aussi, ça viendrait jouer. Mais ça aussi, c'est prévisible. Puis je veux dire, les matériaux de construction, c'est pas d'hier. Hein? On est en pleine inflation. Tout monte. Je peux vivre avec ça, des passements de coûts. Je peux vivre avec des choses imprévues sur un chantier. Je peux vivre avec... c'est un peu plus magané qu'on pensait. 60% plus magané, 60% plus de dommages que ce qu'on avait évalué. Est-ce que l'évaluation était... Est-ce qu'on est incompétent là-dessus? Et puis, un dépassement de coût qui double le contrat initial. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de qui marche pas dans le système. Là. On peut dire que c'est des dépassements de coûts systémiques. Est-ce qu'on fera une commission d'enquête là-dessus un jour? Je sais pas. Ça a l'air que c'est comme ça que ça marche. Puis j'aimerais ça qu'à un moment donné, un politicien se penche là-dessus. T'sais, un parti qui veut aspirer à aller au pouvoir pourrait peut-être... l'opposition officielle pourrait peut-être essayer de squeezer, demander une commission d'enquête. Ah, c'est vrai, on a déjà eu une commission d'enquête sur la construction. Est-ce que ça a beaucoup changé? Pas certain! Pas certain! Parlant de dépassement de coûts, dans le Journal de Montréal, on apprend que il n'y a pas que l'industrie de la construction qui fait dans le dépassement de coûts. Mais les épiceries aussi, il y a beaucoup d'erreurs qui se glissent dans la facturation de vos épiceries. Puis c'est quelque chose qui semble généralisé. On a fait un sondage qui a été fait par le Laboratoire des sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université de Dalhousie. Ce sondage-là nous dit que 69% des Québécois disent avoir remarqué des erreurs sur leur reçu à l'épicerie, contre 67% pour l'ensemble du Canada. Fait que, tu sais, on est pas mal dans les mêmes eaux. Ça semble très crédible. Puis l'erreur la plus fréquente qui serait commise, ça serait une différence de prix entre ce qu'on voit sur les tablettes et ce qu'on paye à la caisse. Quand vous allez acheter votre boîte de Kraft Dinner à 1,49 en spécial, ben ça se peut qu'on vous charge quand même le prix régulier de 79 ou 99 à la caisse. Que les rabais qu'on voit sur l'étiquetage, qu'on voit sur la tablette, ne soient pas appliqués, rendus à la caisse. C'est-à-dire qu'on n'en a pas pour notre argent. Puis surtout, on pense économiser alors qu'on économise. Ah! Il y a d'autres erreurs assez fréquentes qui apparaissent. Les ventes du jour qui ne seraient pas appliquées à la caisse aussi. Et ça arrive assez souvent apparemment que les caissiers scannent plusieurs fois un produit par erreur, que vous payez plus d'une fois votre boîte de Kraft Dinner déjà qui était en spécial et que vous payez le prix régulier. Vous la payez 2-3 fois parce que vous n'avez acheté rien qu'une puis on vous en charge plusieurs. Puis là, je pense pas que, tu sais, il n'y a pas de complot des caissières et des caissiers de IGA. Là, ça doit être des erreurs de bonne foi. Là, faut dire qu'il y a, avec le manque d'employés, les caissiers et caissières qui restent, ils sont dans le jus pas mal. Si vous n'avez pas confiance, ben il y a toujours les bornes de paiement automatiques. Puis si vous scannez plus qu'une fois, ben là, ça sera de votre faute. Mais on a des recours, hein, sachez-le. Si un article dépasse le prix affiché sur le rayon, puis que cet article-là vaut moins de 10$, genre du Kraft Dinner, je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple-là, mais ça a l'air que je suis poigné que ça. Ben on a droit à un rabais de 10$, puis on peut réclamer. En fait, si le prix qu'on paye dépasse le prix qui était affiché, on peut le réclamer gratuitement si vaut moins de 10$. S'il vaut plus que 10$, on peut réclamer un rabais de 10$ dessus. Donc, si on achète un produit qui vaut, je sais pas, sur la tablette, il était 11,25$, puis on vous l'a chargé 12,75$, vous pouvez l'avoir pour 2,75$, ou même plutôt 1,25$. Le prix du rabais moins qui était affiché, moins le rabais de 10$, puisque l'article la valeur de l'article dépasse 10$. Donc, si on a les yeux ouverts un peu, il y a moyen d'économiser. Il y a peut-être même moyen de le faire sans jammer la file. Hein. Il existe des applications puis des politiques de prix dans des épiceries où on peut dire « Ah, j'ai vu cet article-là moins cher ailleurs. Voici la circulaire de ton compétiteur qui atteste qu'il le vende 14 cents moins cher. » Il y a des gens qui vont se prémunir de cette politique-là. Ce qui est plate, c'est que c'est long à la caisse. Hein. Ça jamme la file quand tu sors tes circulaires des autres épiceries pour prouver que tu l'as vu moins cher ailleurs. Mais écoute, avec au prix que sont rendus les denrées alimentaires, je pense qu'on peut pas vraiment s'insurger contre les gens qui se prévalent de ces politiques-là. Mais pour le 10$, moi, je le savais pas. Je trouve ça très intéressant de pouvoir réclamer un article gratuitement si le prix ne correspond pas et s'il vaut moins de 10$, ou de réclamer 10$ de rabais sur un article qui vaut plus de 10$ et dont le prix ne correspond pas. On dit que c'est supposé tout marcher de toute façon. Les prix sont supposés être tous dans un même système informatique qui est relié à des lecteurs optiques. Selon l'application de la politique d'exactitude des prix, de l'indication des prix sur les tablettes, apparemment, on est censé avoir accès à des lecteurs optiques dans les épiceries pour pouvoir vérifier nous-mêmes les prix des articles qu'on paie vraiment. Parce que des fois, sur la tablette, c'est marqué quelque chose, puis quand on scanne, ça donne un autre prix. Donc, on est censé avoir accès à ces lecteurs-là. Je pense que la majorité des épiceries, sinon la totalité, les ont. Mais c'est ce que nous dit Charles Tanguay de l'Office de la protection du consommateur. Il reste combien de temps? Il reste 12 minutes. OK, j'ai le temps de continuer un peu avec l'épicerie, parce que on veut sévir notamment sur des produits dont le marketing vise les enfants dans les épiceries et les restaurants. On se sert évidemment d'images attrayantes, là. T'sais, des produits pour enfants, c'est des produits pour enfants. Là, t'sais, des animaux, des Ninja Turtles, ça peut être une boîte de céréales de Star Wars s'ils viennent de sortir un film de Star Wars. Donc on vise les enfants avec le marketing. Puis déjà qu'à la télévision puis à la radio, je sais pas si vous avez remarqué, là, mais depuis à peu près 20 ans ou plus, il n'y a plus de marketing, de publicité qui vise les enfants. Aux États-Unis, on le voit encore beaucoup, puis c'est la différence qu'on note quand on écoute la télévision américaine versus la nôtre. Il n'y a pas de publicité de jouets. Il n'y a pas de publicité qui vise directement les enfants avec des produits. Puis, tu sais, dites à votre maman de vous acheter tel produit parce que c'est cool. Puis, telle vedette en mange. Hein, j'adore ça, les enfants, c'est super bon. Ou bien, carrément des annonces de jouets. Ça n'existe plus depuis longtemps. Ce qui fait que les compagnies, doivent se rabattre sur le marketing d'emballage. D'ailleurs, souvent, les emballages sont une des causes. On parle souvent de pollution, de recyclage. J'en ai déjà parlé. Le suremballage, évidemment, c'est un fléau. Et une des causes du suremballage, c'est justement parce qu'on veut mettre plus de marketing dessus. On va vendre, je sais pas, une saucisse ou un bonbon ou n'importe quoi, puis on va mettre plus d'emballage que nécessaire pour le produit parce que on veut mettre le logo de la compagnie, on veut mettre des images du dernier film à la mode, faire de la publicité, on veut inciter le public à acheter, à choisir ce produit-là plutôt qu'un autre, puis c'est normal, c'est comme ça que ça marche, le marketing. Mais là, il y a un rapport canadien qui s'est penché sur ce marketing-là qui vise les enfants. Le rapport était financé par la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada parce qu'évidemment, on vise la malbouffe, on vise des aliments qui ne sont pas sains, qui sont pleins de sucre, puis il y a même des restaurants de fast-food, des choses comme ça. Donc, ils ont vérifié les offres dans plus de 2000 restaurants et 800 magasins un peu partout au Canada, puis ils concluent que les enfants sont bombardés, mitraillés de messages publicitaires sur les emballages pour rendre évidemment la malbouffe attrayante. Ils ont découvert que 53% des magasins entourent les allées des caisses d'allusion à des aliments malsains. C'est vrai, tu peux pas aller dans presque n'importe quel commerce. Tu sais, j'allais dire les Dollarama, les Hart, ces affaires-là, mais je suis au Winners où on vend du linge, là. Tu peux pas te rendre à la caisse sans passer devant une armée de barres de chocolat au garde-à-vous qui te regarde fièrement, puis un tas de sacs de chips. en train de te faire engraisser, juste à les regarder. Des bonbons, des jouets bonbons, des jouets avec des bonbons. Puis quand je dis des jouets bonbons, il y a des bonbons qui sont eux-mêmes des jouets, là, vous savez de quoi je parle à peu près. T'sais, des push-pop, puis des cossins de même, des pèses. C'est à la caisse qu'on cible le plus les enfants parce que c'est là qu'ils sont pognés avec les parents puis qu'ils tirent sur le manteau. Maman, je veux le chocolat des Ninja Turtles. Puis c'est sûr que ça marche là. Donc, effectivement, il y en a partout. Puis, on aimerait ça légiférer là-dessus. T'sais, sur le fond, je suis assez d'accord. Là. C'est vrai que la malbouffe, c'est un fléau. Le sucre, c'est un fléau. Puis oui, on vise les jeunes, mais... À un moment donné, vous trouvez pas que ça fait un peu beaucoup de contrôle? Tu sais... On va pas faire comme les cigarettes, là, puis... Mettre tous les sacs de chips bruns avec une image de cancer de la gueule dessus. Tu sais, est-ce qu'on va prendre des barres de chocolat puis les mettre sous des panneaux pour les camoufler, pour pas qu'on les voit? Est-ce que les emballages devront se limiter juste au nom de l'entreprise? Tu sais, à un moment donné, les parents... Est-ce qu'on peut confier... Est-ce que, c'est une bonne idée, mais deux, est-ce qu'on pourrait confier la responsabilité d'élever et de nourrir les enfants aux parents? Je trouve ça un peu paternaliste. Je trouve ça un petit peu... je trouve que ça va un petit peu loin. Je suis d'accord avec le fait... je suis d'accord avec le fait qu'on fasse plus de publicité, tu sais... ciblé vers les enfants, puis acheter le nouveau G.I. Joe, des explosions. Ça, je comprends ça, là, à la télévision, puis dans les... Mais sur les produits eux-mêmes, tu sais, à un moment donné, on peut laisser un peu le libre marché faire son œuvre, et on peut aussi laisser un peu de responsabilité aux parents, de dire, non, je t'achète pas ça, même s'il y a un Ninja Turtle dessus, parce que t'en manges assez de cochonneries. Fait que, tu sais, je suis d'accord avec les principes, je suis d'accord avec les valeurs que la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC veulent faire valoir avec cette étude-là puis avec des recommandations. Mais je pense qu'il faut laisser une petite partie au libre marché et puis laisser un peu de responsabilité aux parents. Là. Vous êtes capable de dire non là quand vous faites tirer sur la manche de côte là. Sinon, si vous êtes incapable de refuser des produits puis des bonbons puis de, c'est pas capable de dire non à votre enfant, c'est peut-être vous le problème un petit peu. Hein? Tu sais, ça se peut que ce soit pas tout à fait au gouvernement de légiférer là-dessus. Ça, c'est mon opinion. On va faire un petit refresh juste pour le fun, juste pour être sûr que Donald Trump n'a pas été arrêté pendant que je parlais. Là. Et puis, je regarde, puis apparemment, non. Fait que, est-ce que c'est un pétard mouillé? Est-ce que Trump était vraiment la seule source qui avançait cette histoire d'arrestation? Est-ce qu'il a échafaudé ça pour créer une sympathie d'avance au cas que ça allait arriver? En tout cas, il reste encore quelques heures, il reste toute l'après-midi pour que ça se produise. Il reste 5 minutes. J'ai une bonne nouvelle qui est un peu triste, mais qui reste quand même une bonne nouvelle. Mais, tu sais, avant ça, je vais en faire une qui est un peu cocasse. Puis, okay, c'est un petit peu de l'acharnement, là. C'est sorti il y a quelques jours, là. Le ministre de la Culture qui a fait 2 fautes de français dans un tweet qui est très, très bref, là. c'est pas des... Pour vrai, on tape un peu dessus pour rien. Tu sais, je serais du genre à dire, Colin, t'es ministre de la Culture, essaie donc d'écrire comme il faut, tu sais, mais... Il a écrit, le gars-là, les Oliviers, il a mis un S à Olivier. Évidemment, les noms propres ne s'accordent pas en français. Tu sais, c'est comme d'ailleurs, souvent on fait l'erreur parce qu'en anglais, ils s'accordent. Par exemple, l'émission The Simpsons prend un S, puis en français, ça devient Les Simpsons, pas de S. OK, cette erreur-là, il aurait dû le savoir, là, je suis d'accord. L'autre, ben, c'est parce qu'il dit bonne chance à tous les nominés et bon spectacle. Mais selon l'Office québécois de la langue... un autre impair. L'Office québécois, c'est un office, de la langue française, ben, il serait préférable de parler de personnes sélectionnées ou encore... les nommés, il faudrait dire les nommés sont. Sauf que depuis longtemps, on dit les nominés, on parle des nominations. Oui, c'est une erreur, mais là, est-ce que ça fait de lui un inculte indigne du poste de ministre de la Culture? Ben non. T'sais, on peut y lâcher la grappe un petit peu avec ça, mais reste que c'est... Je trouve que ce qui est plus cocasse là-dedans, c'est la façon dont on s'est garoché dessus. T'sais, c'est sûr qu'il y en a qui attendent juste de voir ça, t'sais, une erreur comme ça, pour sauter dessus. Je suis pas en train de dire de l'excuser à 100%, puis... T'sais, c'est vrai qu'il devrait connaître les règles de la langue française. Pour le mot nominé, ben, tu sais, ça, tu le sais ou tu le sais pas, là, tu sais, il aurait sans doute dû le savoir, mais pour moi, ça reste du, comme dit PPM83, t'es actif dans les commentaires aujourd'hui, en tout cas, t'en écris des bons. Dans le langage courant, c'est acceptable. Ben, moi, c'est ça. Moi, je suis de cet avis-là, tu sais, c'est du langage courant. Il est sur Twitter, c'est pas une publication du ministère, c'est pas quelque chose de, c'est pas une communication officielle. C'est un tweet, puis il a dit nominé. Crucifié-le. Les Oliviers auraient peut-être dû le savoir. Mais en tout cas, je peux quand même trouver ça comique qu'on le souligne à ce point-là et qu'on en fasse, qu'on tente d'en faire tout un plat. Ben, ça a un peu marché parce que je vous en parle, mais ça m'a fait sourire. Mais pas nécessairement pour les raisons que l'on visait, j'imagine, en l'accusant de ses horribles impairs linguistiques, ses accros épouvantables, ses péchés mortels. La bonne nouvelle, ouais, c'est comme je disais, c'est une bonne nouvelle qui est un peu triste, mais une bonne nouvelle tout de même. On sait que l'attentat à Amqui au camion Bélier avait fait déjà 2 victimes. Il y a blessé pour lequel on craignait, les craintes étaient fondées parce qu'il est décédé. C'est pas ça la bonne nouvelle, attendez un petit peu. La bonne nouvelle là-dedans, dans cette situation-là dramatique, c'est que Simon-Guillaume Bourget, avant de mourir, avait confirmé qu'il faisait don de ses organes. Et ses organes ont permis de sauver 3 personnes. Fait que, tu sais, c'est oui, il a perdu la vie, c'est dramatique, c'est un innocent, tu sais, puis d'ailleurs, on en a appris un peu plus sur, en tout cas, c'est... Le fait qu'on a appris, c'est que le fou au camion Bélier, avant d'aller faire ses victimes sur le boulevard, ben, il était allé rouler dans le coin de son école secondaire, son ancienne école. Est-ce qu'il visait, est-ce qu'il projetait de viser des élèves de l'école? Est-ce qu'il voulait faire un carnage dans la cour d'école? On ne le sait pas. Mais il est allé rouler là, sur le terrain de l'école, t'sais, assez longuement apparemment. Et puis, ce qui lui a fait changer d'endroit, j'imagine, en tout cas, c'est ce qu'on peut supposer. Pas conclure, mais supposer, c'est que c'était une journée pédagogique et il n'y avait pas d'élèves sur place. Si la cour d'école eût été pleine, est-ce qu'il aurait foncé dans le tas? On dirait que j'aime mieux pas le savoir, mais c'était une possibilité. Mais c'est pas arrivé, tu sais, au moins. Il a fait 2 victimes sur le... Il a fait plusieurs victimes, je pense que c'est 9 total blessés. Il y avait 2 personnes qui étaient mortes pour... Mais bon, la troisième victime est décédée récemment et au moins sa mort aura permis de faire survivre, de sauver la vie de trois autres personnes. C'est mieux que je puisse faire, je suis désolé pour la bonne nouvelle. C'est une nouvelle triste, c'est dans le cadre d'une nouvelle triste, mais ça reste que c'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est ça, comme dit Chill Matt, ça ressemble à du repérage, tu sais. Aller rouler dans ce coin-là, tu sais, c'est... On sait que le monsieur avait une psychologie assez complexe, là, tu sais. Est-ce qu'il a été traumatisé par son expérience à l'école? Est-ce qu'il a vécu beaucoup de rejet? Est-ce que ce sentiment-là s'est exacerbé dans la société en tant qu'adulte? Tu sais, on peut pas... Ça reste qu'on présume, puis on essaie de comprendre quelque chose qui est très difficile à comprendre. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est que le monsieur avait pas toute sa tête. En tout cas, ce que je pense qu'on peut l'affirmer sans trop commettre un impair, là, sans poser de diagnostic, on peut dire que le monsieur allait pas bien. Il suffit d'écouter ses vidéos sur TikTok qu'il a fait dans les journées, voire les semaines précédant le drame. Il raconte des choses qui ont ni queue ni tête. C'est pas juste décousu, c'est pas complotiste, c'est pas juste paranoïaque, c'est fou, ça se tient juste pas. Il faisait des liens entre le World Trade Center, les motards, puis les syndicats. Tu sais, c'est un délire, là. Tu sais, j'ai hâte de voir s'il sera reconnu criminellement responsable de ses actions, parce que j'ai l'impression que le gars, ça allait mal. Mais en tout cas, je voulais finir sur la bonne nouvelle triste, puis je finis avec des choses négatives. Je vais juste vous rappeler que cette victime-là... qui est décédé tragiquement, a sauvé trois personnes dans la mort. C'est une... il a transformé son statut de victime, je pense, en héros, en ayant sauvé des vies. Je vais conclure l'Express là-dessus. On se reparle demain à midi. Soyez là.
Membre de la famille H2O Web Media.